merci. D'abord, je voudrais remercier l'ensemble du bureau de la FNESI de cette sollicitation à venir travailler avec vous et à travailler en particulier sur le futur des étudiants et des jeunes professionnels infirmiers, parce que vous êtes les porteurs d'un avenir, que vous êtes garants de l'évolution de la profession, ainsi que de l'évolution statutaire et salariale. Un jour, c'est vous qui la défendrez. On retrouve là mon côté syndicaliste. Et ceci, vous allez le faire au plus au cours de votre vie professionnelle dans le souci constant d'un soin aux usagers que vous aurez à prendre en charge. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu du contexte et des acteurs, de l'évolution des besoins et des prévisions démographiques, des coopérations et des pratiques infirmières avancées, de bien différencier les deux, parce que selon notre analyse, ce ne sont pas les mêmes enjeux sur lesquels cela porte. Dire quelques mots, mais en effleurant simplement, parce que ce sera l'objet de la seconde table ronde, mais du processus de Bologne et du master, et les perspectives pour demain. Dans le contexte et les acteurs, il y a des choses que nous constatons tous, c'est que les hommes et les environnements changent. Ce n'est pas novateur. La situation sanitaire avec eux, c'est normal. La CFDT Santé Sociaux partage avec nombre de partenaires le constat de besoins nouveaux en santé, et aussi en particulier en matière de santé publique. Je ne vais donc pas reprendre les éléments qu'a développé M. Sansalone, puisque nous en avons déjà débattu de façon informelle tous les deux, et que nous sommes d'accord sur ces constats. Donc il me semble qu'il faut peut-être porter un peu le regard ailleurs. Pour autant, à l'heure où l'on parle de nouvelle répartition des tâches entre professionnels, de réorganisation de l'offre de soins, de prise en charge des pathologies chroniques ou des polypathologies, justement, voire de nouvelles pathologies, et tout ça dans un cadre financier contraint, il convient de prendre en compte le devenir des acteurs que vous êtes et que sont tous les infirmiers. Ce que vous a montré M. Sansalone, c'est que finalement, nous sommes plus de 550 000 infirmiers en France. D'accord ? Et que nous devons jouer à ce titre un rôle dans l'évolution du système de santé. Parmi les acteurs, je vais d'abord m'adresser à vous. Vous êtes les principaux acteurs de demain, les étudiants d'aujourd'hui. Malgré une certaine évolution, l'état des lieux de la formation des infirmiers en France manque encore de lisibilité et paraît encore souvent inéquitable. C'est pourquoi notre fédération CFDT Santé Sociaux poursuit avec vous son engagement sur des pistes de réforme qui tendent à assurer l'égal accès des étudiants à la démocratie estudiantine, ce qui n'est pas encore acquis partout. Le manque d'équité, il existe aussi ailleurs. Les étudiants en soins infirmiers n'ont pas tous accès aux mêmes droits. Vous venez de différentes régions, je pense que vous en avez parlé entre vous et que vous le savez. Vous êtes affiliés au régime de la sécurité sociale étudiantine. Vous disposez d'une carte d'étudiant délivrée sous le timbre du ministère de la Santé et vous avez vocation à bénéficier de l'intégralité des œuvres du CROUS. Pour autant, il existe des disparités territoriales. Les droits d'inscription sont inégalitaires selon la nature ou le statut du centre de formation ou de l'IFSI dans lequel vous allez vous intégrer. Les coûts varient en fonction de leur caractère public ou privé. Sans parler, pour certains d'entre vous, du coût des écoles de préparation que vous faites parfois en amont de l'entrée dans les IFSI. Et tout ça pèse de façon inéquitable sur vous. Et par ailleurs, les bourses ne sont pas alignées sur celles de l'enseignement supérieur dans leur montant, dans leurs critères d'attribution. Et elles n'ont pas bougé depuis 2005, alors que dans l'enseignement supérieur, il y a eu une hausse de 1 à 3% à la rentrée 2009-2010. Donc, encore une source d'inéquité pour vous. Certaines régions s'efforcent de se combler cet écart, mais je laisserai Madame Mignon en parler. Voilà. Très largement. Et dernière chose qui nous paraît difficile, c'est que vous ne bénéficiez pas de l'indemnité de stage de droit commun au prétexte que vos stages étaient antérieurement indemnisés. Simplement, si on fait le compte, on est loin de ce à quoi vous pourriez prétendre, parce qu'en moyenne, en troisième année, vous arrivez à 160 euros, alors que l'indemnité de stage de droit commun est de 400 euros par mois. Donc on voit qu'il y a quand même un différentiel et des inégalités qui pèsent sur l'ensemble des étudiants en soins infirmiers. La CFDT Santé Sociaux dénonce cette iniquité qui fait des étudiants des soins infirmiers des exclus du système de droit commun. Pour la CFDT Santé Sociaux, cette sélection par l'argent ne doit pas perdurer. Elle a pour effet un recrutement qui est socialement inégalitaire et qui ne garantit pas la mixité des publics. Or, pour nous, la mixité des publics est une exigence éthique envers tous les jeunes et doit être absolument défendue. Parmi les autres acteurs, je n'en dirai que quelques mots puisque vous aurez un interlocuteur qui les représentera très largement tout à l'heure, citons les instituts de formation. Ils ont des statuts différents, divergent par leur nombre, leur capacité en fonction de leurs effectifs et les quotas régionaux. Il en existe à 371 et je m'arrêterai sur ça. Les régions, Madame Mignon vous en parlera. Parmi les autres acteurs importants, voire incontournables, n'oublions pas les ARS qui ont pour mission de mettre en œuvre la politique de santé publique, de réguler, d'orienter, d'organiser l'offre de santé et aussi l'offre médico-sociale. Faites bien le lien avec ce que vous a dit M. Sanzalone tout à l'heure. Elles ne peuvent pas le faire sans tenir compte des professionnels infirmiers qui offrent ces prestations. Et comme dernier acteur, je citerai les universités maintenant qui co-gèrent le diplôme infirmier. On voit qu'il y a une multitude d'intervenants et cette multitude d'intervenants ne facilite évidemment pas ni le pilotage du système, ni sa lisibilité et encore moins sa modernisation. Il faut donc mobiliser les leviers disponibles. Parmi les leviers disponibles, je voudrais m'arrêter quelques instants sur un levier particulier qui s'appelle la GPEC. C'est peut-être pas encore très courant pour vous, mais vous en entendrez parler quand vous allez entrer dans les établissements, la gestion préventive des emplois et des compétences. Elle est déterminante pour ne pas subir et donner de la lisibilité et de la perspective aux infirmiers. Nous comptons la GPEC parmi les outils pertinents pour prendre en compte les évolutions possibles pour demain, afin de répondre aux nouveaux besoins, voire de préparer aux évolutions et aux nouveaux métiers. Elle doit exister dans les établissements, mais la CFDT considère que par ailleurs, les ARS devraient s'en saisir, car nous constatons que des décisions régionales sur le territoire se font souvent aux dépens des professionnels par manque d'anticipation. Voilà, les universités, ce sera sans doute un des sujets de la table ronde de tout à l'heure, donc je ne vais pas non plus défricher le sujet. Les impacts et quelques impacts de l'évolution des besoins. On voit donc que de puissantes évolutions sont à l'œuvre dans le champ sanitaire et médico-social et modifient l'organisation du système de soins. La restructuration de l'offre de soins, la réorganisation des modes de prise en charge, des contextes d'adaptation, de rentabilisation, de sécurisation de qualité et de traçabilité et de modernisation des établissements de santé. Tout ça impacte le devenir du métier. Autre élément essentiel, la démographie des populations et celle des professionnels. La démographie des populations, vous êtes étudiant en soins infirmiers, vous êtes maintenant dans un contexte LMD pour la plupart de vous et afin de ne pas revenir sur les chiffres franco-français, je suis allée un peu rechercher des données européennes. D'ici 2050, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans et celui de plus de 80 ans devraient avoir augmenté respectivement de 70 et 170%. Donc vous voyez que la montée en charge des personnes âgées sur l'ensemble de l'Union européenne. C'est là un des grands défis du 21e siècle. Il faudra répondre à la demande accrue en matière de soins et adapter les systèmes de santé aux besoins d'une population vieillissante tout en assurant la pérennité de ces systèmes dans une société où la population active diminue. Le principal objectif sera de promouvoir un mode de vie sain et actif pour les Européens âgés. Il ne faut pas y voir un humanisme angélique dans ce genre de choses. Ça, ce sont des éléments. Mais il ne faut pas y voir un humanisme angélique, parce que là, comme partout ailleurs, il s'agit avant tout d'économie. On oublie souvent de faire le lien avec les problèmes économiques. Vivre plus longtemps et en bonne santé, c'est disposer d'une meilleure qualité de vie, certes, et d'une plus grande indépendance, mais c'est tout autant rester actif. C'est cela qui est visé derrière. Faites le lien avec les retraites. mais surtout si la population reste en bonne santé, les systèmes de santé seront moins sollicités, les travailleurs moins nombreux à mettre fin à leurs activités professionnelles pour des raisons de santé, et la croissance économique de l'Europe s'en trouverait renforcée. L'évolution démographique de la population, l'accroissement des prises en charge des personnes âgées, parfois socialement défavorisées ou dépendantes, induisent des prises en charge complexes. Voyez les exemples qui vous ont été donnés. Et ces prises en charge, elles doivent aborder aussi la dimension sociale au plus près du lieu de vie du demandeur, et elles nécessitent des coordinations en amont et en aval de temps d'hospitalisation qui sont inéluctables, mais que l'ensemble des usagers souhaitent le plus court possible. Le développement de réseaux et l'organisation concertée de parcours de soins doivent permettre d'optimiser la qualité de la prise en charge et les coûts. La demande des usagers pour le soin est croissante, donc, et proportionnelle au vieillissement de la population et à l'allongement de la durée de vie. La démographie des infirmiers, les chiffres vous ont été donnés. Si les infirmiers se trouvent dans une structure d'âge plus favorable que les médecins, pour autant, ça ne signifie pas un égal accès aux professionnels pour la population. Certains départements, on vous a dit l'Île-de-France, mais il y a aussi la Creuse, le Cantal ou le Cher, ont des densités de professionnels inférieures à la moyenne nationale. D'autres départements sont mieux pourvus. Nous sommes toujours dans le vieil adage où les patients sont au nord et les soignants au sud. On l'a critiqué pour les médecins, mais nous en sommes en train de reproduire la même chose pour les infirmiers. Enfin, parlons de la structuration de vos carrières. Un infirmier exerce en moyenne 10 à 15 ans comme salarié, évolue souvent vers du secteur libéral ou change carrément de métier. Par conséquent, la pyramide des infirmiers est déséquilibrée en milieu hospitalier. Au 1er janvier 2009, 54% des infirmiers, c'est-à-dire plus de la moitié des infirmiers dans les établissements publics de santé, ont 40 ans et plus. Et 28%, soit un tiers de ces infirmiers, ont plus de 50 ans. Ce sont des chiffres donnés par l'Observatoire national des professions de santé. Donc, pour répondre aux problèmes de démographie professionnelle, différents facteurs entrent en ligne de compte, tels que les conditions d'exercice, parce que qu'est-ce qui fait qu'un infirmier arrête sa carrière au bout de 10 à 15 ans ? Ce sont souvent des conditions d'exercice difficiles, mais aussi des conditions de reconnaissance économique, bien sûr, et la nature des postes, mais aussi la perspective d'évolution de carrière. D'accord. Sur les évolutions, il y a bien sûr les évolutions des pathologies, mais elles ont déjà été évoquées. Donc, je vais juste faire de manière synthétique les besoins. Ils sont entre autres liés au vieillissement de la population, liés à l'augmentation des pathologies chroniques, aux besoins qu'on note aussi, par contre, ce qui est peu évoqué actuellement encore, mais qui apparaît dans certains rapports, ce sont des besoins nouveaux et plus importants sur le couvert psychiatrique, des prises en charge psychiatriques. Mais on note aussi l'apparition de besoins liés à de nouvelles problématiques sanitaires. Je pense que certains d'entre vous ont fait partie des gens qui n'avaient pas trop le choix, qui sont allés faire des vaccinations H1N1. D'accord ? Donc la H1N1, la grippe aviaire, le chikungunya, autant de choses là aussi nouvelles. Face à tout cela, les infirmiers ont un rôle important à jouer. Il est aussi de nombreux domaines où ils vont devoir s'investir, comme la médiation, l'éducation, dont l'éducation thérapeutique, et la prévention qui est encore mal prise en charge en France. Dans bien des cas, vous deviendrez référent de patients, coordonnateur de soins, capable d'orientation, expert sur des pathologies particulières, et vous travaillerez en coopération avec l'ensemble des acteurs médicaux. Pour autant, il y a un hiatus pour faire évoluer tout ça. C'est que le système français de formation est déterminé par une scission importante entre les études médicales et les études paramédicales. Et donc, il y a là une bipolarité qu'il va être à un moment donné nécessaire de dépasser pour prendre en compte le contexte évolutif des professions paramédicales. Pour nous, c'est le dépassement de cette bipolarité à des objectifs qui visent à renforcer l'attractivité et les évolutions de la profession infirmière, à officialiser les tâches et fonctions soignantes à haut niveau de compétences et de responsabilités, à reconnaître en termes de statut et de salaire les nouvelles professions qui en découleront, à établir de nouvelles perspectives pour développer les compétences et les responsabilités des professionnels, et à permettre d'élaborer un cursus évolutif dans l'ensemble du LMD et pas essentiellement au niveau licence. Il s'agit aussi, bien sûr, dans le dépassement de cette bipolarité, de prendre en compte les attentes de la population en termes de continuité des soins et de répondre à des impératifs et en particulier aux impératifs de santé publique. Les choses évoluent, il y a une évolution qui se fait, donc de l'évolution des emplois à celle de la profession d'infirmier. Face à l'évolution des besoins sanitaires, des politiques publiques, des différents modes de prise en charge, une question se pose en corollaire. Dans quel sens moderniser les certifications du secteur pour ajuster les compétences à la demande et aux besoins, aux emplois et aux profils recherchés dans les établissements? Cela va être traité aussi pour partie tout à l'heure. Pour autant, il faut que nous prenions compte que l'attachement que nous avons à notre identité professionnelle engendre parfois des réticences à remplir des missions connexes dans l'indifférenciation des métiers, alors que les besoins sont sanitaires, médico-sociaux, mais aussi sociaux, et que c'est bien cette transversalité qu'à un moment donné, il va falloir aborder. Pour essayer de voir ce qu'est l'évolution des emplois et celle de la profession, il existe des outils. Les branches professionnelles ont créé des commissions paritaires nationales pour l'emploi et la formation professionnelle, lesquelles, elles, se sont dotées d'observatoires qui apportent des informations indispensables à la réflexion sur l'évolution des emplois et des métiers dans leurs champs respectifs. Là où cette instance faisait défaut, le secteur public, le ministère a créé son propre outil. C'est intéressant, cela nous donne des idées de perspectives et des avancées prospectives. Pour autant, c'est totalement inutile. Et je vais vous dire que pour le moment, on en est encore à fonctionner au doigt mouillé. C'est un peu caricatural, mais pourquoi on en est encore au doigt mouillé? Parce que chaque observatoire, s'il donne des critères intéressants, le fait de façon différente, les uns contre un homme, d'autres en équivalent temps plein, d'autres en poste, d'autres en pourcentage, et aucune des données ne sont amalgamables. Ce qui fait qu'à un certain moment donné, chacun regarde son petit secteur et prévoit des évolutions à l'aune de son petit secteur particulier, secteur public. Mais le secteur public, c'est jamais que 50% de ce que ça représente au niveau national. Secteur privé lucratif, secteur non lucratif, secteur libéral. Donc là, on a des petits soucis, là aussi, dans le guidage. Et à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on ait un peu plus de cohérence sur tout ça et qu'on harmonise l'ensemble des outils pour aller vers des évolutions qui soient plus significatives. Voilà, donc ça, ce sont au niveau des outils. Les coopérations entre professionnels. Le développement des coopérations entre les professionnels de santé suppose l'acquisition d'une culture commune qui, pour le moment, fait encore défaut et de nouvelles compétences pour les infirmiers afin d'améliorer la coordination des soins autour du patient, de dégager du temps médical en confiant de nouvelles responsabilités aux infirmiers, d'améliorer la qualité des soins, notamment en favorisant la prévention et un meilleur suivi de l'ensemble des maladies chroniques et des patients atteints de polypathologie. Il s'agit aussi, à travers cela, d'accroître l'efficience de l'offre de soins, de rendre la profession d'infirmier plus active. Pour cela, vous allez devoir demain acquérir une encore plus grande compréhension et un meilleur abord des pathologies, des thérapies, des nouvelles technologies utilisées, car il s'agira d'assister le médecin et de savoir expliquer les pathologies aux patients, à leurs familles, de savoir interpréter des examens de façon plus importante, voire de savoir prescrire, ce qui est quelque chose de novateur et qui n'est pas encore dans le champ infirmier. La CFDT Santé Sociaux considère pour autant qu'il serait illusoire de prétendre élaborer un nouveau cadre de référence professionnelle sans réviser son encadrement juridique et le décret d'acte, qu'il conviendra à un moment donné de faire évoluer au bénéfice d'une logique plus globale de mission. Parce qu'en gros, un décret d'acte, qu'on le veuille ou pas, dès que c'est écrit, c'est obsolète. Ça vous dit, on va le faire caricatural, que vous avez le droit d'uriner sur le pied gauche de la table, sur celui du milieu, et que vous n'avez le droit d'uriner nulle part ailleurs. Je ne sais pas si c'est ça que veulent les infirmiers, d'avoir un champ très limité, non évolutif. Donc je pense qu'à un moment donné, vous, futurs professionnels, aurez à réfléchir sur l'évolution vers des missions plus globales. Le partage de compétences, il y a deux choses. Les pratiques avancées d'un côté, le partage de compétences. La nouvelle répartition des tâches entre professionnels a trouvé sa traduction donc, dans l'article 71 de HPST à travers la possibilité pour l'ensemble des professionnels de santé de s'engager dans des protocoles de coopération. La coopération, ça se développe dans le cadre d'un protocole impliquant au minimum deux professionnels qui acceptent de coopérer ensemble, qui définissent le champ de leur coopération, qui vont soumettre ce projet à la Haute Autorité de Santé et à l'ARS, laquelle ARS va donner un avis. Et donc, c'est à partir de là que cette coopération va se faire. Donc, on voit bien que la coopération entre professionnels de santé, telle que nous l'analysons, elle concerne dans un cadre individualisé. C'est bien de personne à personne. Alors que les pratiques infirmières avancées sont d'une nature différente. Le terme recouvre pour chacun des métiers ciblés. À l'heure actuelle, les métiers ciblés, eh bien, ce sont infirmiers, IBOD, IAD et puéricultrices. Donc ce terme recouvre la possibilité d'élargir dans des conditions déterminées les activités au-delà de ce qui se pratique aujourd'hui, notamment pour des activités relevant d'intervention du corps médical. Pour notre fédération, c'est de ces PIA que peuvent découler de nouveaux métiers avec en particulier un positionnement en M pour l'ensemble des IDE qui s'y engageront. Tout ça, le M nous amène bien sûr au processus de Bologne. Vous connaissez l'animal puisque vous le fréquentez maintenant au quotidien. L'harmonisation du système européen de l'enseignement supérieur a été initiée donc en 88. On voit que ça met du temps à évoluer. En 99, l'Union européenne a fixé des objectifs communs et un calendrier qu'on appelait processus de Bologne. Il s'agit avant tout de développer la mobilité des étudiants et des professionnels au sein de l'Union européenne en harmonisant les diplômes. Et il en résulte la structuration des études en trois cycles, dont la formation des infirmiers fait maintenant partie. Elle ne pouvait pas en être écartée, sauf parce que ne pas y procéder aurait été mettre la France en situation d'isolement. Donc ce n'est pas un cadeau qui vous a été fait en inscrivant la profession d'infirmier dans le processus de Bologne et dans le LMD. Hein ? Voilà. Toutefois, il faut reconnaître que c'est une chance pour les infirmiers, puisque l'intégration des professions infirmières doit rentrer dans l'intégralité du LMD. Et pour la CFDT, c'est une revendication que nous portons depuis 1999. C'est une revendication qui doit aboutir, qui est attendue par l'ensemble des professionnels, par l'ensemble des étudiants, qui y voient une juste reconnaissance de leurs qualifications, la possibilité et la perspective d'une revalorisation financière d'un métier à l'exercice jugé difficile, deux conditions nécessaires si l'on veut maintenir l'attractivité auprès des jeunes des générations, dans un contexte démographique certes meilleur, mais encore insuffisant. Le master, eh bien, ça fera partie de l'autre table ronde, donc je vais là aussi faire très court. Pour le moment, il existe une seule spécialisation transversale officielle, celle de cadre de santé ou de formateur, mais ça ne correspond pas aux attentes de tous les professionnels. Pour la CFDT, il faut développer la formation professionnelle continue des infirmiers et prévoir un accès au niveau master et doctorat tout au long de la vie professionnelle. La création de masters de qualité sera de nature à offrir une motivation professionnelle en exercice, à améliorer la qualité des soins, mais aussi à vous faire évoluer et prolonger votre carrière parce qu'il y aura une potentialité de processus évolutif. Aujourd'hui, le manque de masters, c'est une faiblesse. Il empêche le développement des coopérations, il empêche les infirmiers qui souhaitent de faire évoluer leur carrière, ils sont freinés par l'absence de formation qui évolue, et l'absence de professionnels qualifiés au niveau master a des effets négatifs sur la qualité des prises en charge, que ce soit dans les zones où il existe des pénuries de professionnels médicaux ou pour établir une continuité dans la chaîne des soins qui est attendue par l'ensemble des usagers. Et demain, quelles perspectives pouvons-nous avoir pour les infirmiers ? On l'a dit, le nombre de personnes âgées qui nécessitent des soins lourds, avec des polypathologies et une dépendance aggravée, continue de progresser. L'arrivée à la retraite des papy-boomers va faire de plus en plus doubler la catégorie du troisième âge. Vers 2020, ils seront dans le quatrième âge, là avec des polypathologies, en effet, avec X maladies et des demandes massives de soins, des parcours cliniques plus fréquents, des retours d'hospitalisation plus nombreux, des suivis de maladies chroniques. La dimension relationnelle de la profession d'infirmier devrait alors être encore plus sollicitée avec des personnes âgées qu'il faudra accompagner en fin de vie et dont l'autonomie tant physique que psychique ira en diminuant. À un niveau supérieur, il conviendrait de penser en termes d'infirmiers coordinateurs sur différents métiers, différents publics ou pathologies. En France, plus de 15 millions de personnes souffrent de maladies chroniques. Les patients doivent pouvoir bénéficier d'une réponse adaptée, continue et surtout d'une réponse évolutive pour leur vie sociale et leur vie professionnelle. Pour cela, il est nécessaire qu'ils acquièrent plus d'autonomie vis-à-vis de leur pathologie et vis-à-vis de l'ensemble de leurs problèmes de santé. Et pour acquérir ça, ils ont besoin de l'accompagnement des infirmiers. Et tout cela doit donc passer par une éducation thérapeutique préventive et une éducation thérapeutique curative, personnalisée. Mais ils ont aussi besoin d'être aidés dans la coordination de leurs soins et dans la coordination des soins avec leur vie quotidienne. Et c'est là que le rôle d'infirmier peut être vu de façon plus large. Au-delà de ces premières pistes, la CFDT Santé Sociaux considère qu'il est nécessaire, dans les pratiques infirmières avancées, de repérer le développement d'autres compétences de coordination, des compétences relationnelles, des connaissances de l'environnement, la maîtrise qu'ils peuvent avoir des systèmes d'information, la mission de coordination recoupant des missions d'éducation, de prévention, d'information de leurs patients et de leurs familles, étant déjà pratiquée par certains infirmiers, mais devant être amenée à se développer. L'infirmier coordinateur, pour nous, doit émaner de différentes filières pour répondre à divers niveaux. Il peut être coordinateur de réseaux de personnes âgées, coordinateur sur des pathologies, coordinateur sur des réseaux de handicap, coordinateur sur des réseaux spécialisés. Donc on voit bien là qu'il y a un corpus qui se dégagerait aussi et une filière possible dans le réseau de la coordination. Pour le moment, infirmier, c'est un métier et des expertises ciblées en particulier. Il existe des activités qui sont confiées actuellement à des infirmières expertes ou dites infirmières cliniciennes. On les associe, ce qui correspond au niveau des pratiques infirmières avancées. D'accord ? D'une manière générale, pour l'avenir, il devrait s'agir de toutes les activités qui constituent un corpus d'activités ayant en commun de correspondre à une aptitude et à des compétences de diagnostiquer, ce qui est nouveau, de prescrire, d'analyser des situations complexes, de trouver des solutions innovantes dans le champ du rôle propre infirmier, mais aussi dans le cadre de pratiques avancées avec supervision médicale. Pour la CFDT, à l'instar d'autres pays et dans la continuité des expérimentations et des activités actuelles des IDE expertes, il nous semble souhaitable que l'ensemble des missions cliniciennes ou de pratiques avancées nécessitant une expertise certaine qui est bien au-delà du niveau initial que nous avons les uns les autres en sortant de la formation d'infirmier, soit confié à des infirmiers experts, dûment formés, qualifiés, reconnus sur des expertises ciblées. Et là aussi, ce pourrait être un des débouchés du niveau master. À titre d'exemple, qu'est-ce qu'on peut voir ? On a déjà des infirmiers cliniciens en soins généraux, mais il y a aussi la possibilité d'en développer en gastro-entérologie, en cardiologie, en cancérologie, en néphrologie, en soins primaires, en diabétologie, voire en psychiatrie. Pour autant, il ne s'agit pas de scinder la profession en 10 professions différentes, mais bien d'avoir un corpus qui soit l'ensemble des capacités cliniciennes transposables d'une pathologie à l'autre. Les exemples d'évolution de la profession, on peut aller les rechercher parfois à l'étranger. Ça peut nous donner aussi des pistes à travailler. Dans le système de soins français, il manque différents niveaux, notamment les soins préhospitaliers qui sont peu pris en charge. Pour autant, il existe des pays où cela a été modélisé, en particulier en Amérique du Nord. Ce sont les soins avancés et ça consiste à l'application de soins médicaux réservés aux médecins. Ces soins sont encadrés par des protocoles et se font sous supervision médicale directe, mais sont confiés à des infirmiers. Il nous semblerait pertinent qu'un échelon de soins préhospitaliers puisse être instauré en France, mais cela doit faire l'objet de débats, sans doute dans le cadre des travaux ministériels que nous aurons à ce niveau. L'autre niveau qui existe dans les pays nord-américains, ce sont les répondants médicaux d'urgence. Ils font partie de l'assise sur laquelle repose le système médical particulièrement d'urgence au Canada. Ils sont associés à des organismes d'urgence en milieu rural et ils peuvent constituer les seuls prestataires de services d'urgence dans certaines collectivités. Peut-être que c'est une piste à réfléchir dans les zones où il commence à y avoir une désertification médicale, voire une désertification infirmière. Derrière cela, il existe un niveau supérieur que sont les paramédicaux en soins infirmiers qui ont une formation paramédicale en soins avancés avec une certification antérieure de base, chaque niveau graduant les choses. Ce niveau inclut des responsabilités et des attentes supplémentaires qui ont trait aux actes médicaux, contrôlés ou délégués, qui sont de plus en plus nombreux. Et le dernier nouveau, ce sont les personnels médicaux en soins critiques. Là aussi, ils ont suivi un programme de formation sur les soins critiques. Ils procèdent à des évaluations. Ils font de l'interprétation de résultats de laboratoire ou de radiologie. Ils ont un niveau élevé de prise de décision et sont capables de discrimination différentielle des membres et sur des pathologies différentes. Et ils sont amenés à faire les traitements de leur propre chef sans passer sous la férule du corps médical. Là, pour autant, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui ça soit acquis d'ici quelques années en France. L'autre option qui est sur un système gradué que je vous invite à aller regarder plus près, c'est l'option des prises en charge dans les pays du Nord et en particulier de la Finlande, où là aussi, il y a le système d'accès aux soins primaires qui est assuré par des centres de santé où ce sont les infirmiers qui sont la porte d'entrée vers les soins secondaires, c'est-à-dire vers l'hôpital. Ce n'est pas le médecin qui transfère vers l'hôpital ou qui décide, il peut le faire, bien sûr, ça fait partie de ses prérogatives, mais il n'est pas l'unique prescripteur de l'hospitalisation. Avec un système là aussi gradué après en soins secondaires et en soins tertiaires. Mais les questions de fond seront alors, la population française et le corps médical français, sont-ils prêts à l'accepter? Y aura-t-il une volonté gouvernementale d'évolution en ce sens, ce qui nécessiterait que l'évolution du système de santé soit au cœur des débats politiques? Primat économique oblige, même si on peut l'espérer, je crains de ne pas le voir avant ma retraite, j'espère que vous pourrez le porter et le faire évoluer. Enfin, au-delà des métiers directement soignants, il faut repenser certains métiers, même soignants, au regard de l'évolution des technologies, en particulier des nanotechnologies qui auront sans doute des influences importantes sur les futurs métiers, tant médicaux que paramédicaux. C'est un axe qui est encore peu exploré, pour autant qui existe dans certaines structures, et grâce auquel il va être possible d'envisager et d'anticiper la conception de protocoles pour lutter contre les maladies génétiques. Les maladies devraient pouvoir être diagnostiquées de façon plus précoce. De meilleures thérapies devraient voir le jour. C'est aussi par là que passeront la médecine, la prévention et le soin de demain. Il faudrait déjà l'anticiper. Malheureusement, nous n'y sommes pas encore. Tous les actuels métiers sanitaires, dont celui d'infirmier, seront à repenser et à organiser autour d'une médecine de ville plus préventive qui travaillera demain avec un hôpital totalement différent. C'est sans doute là que sont les grandes évolutions de la profession d'infirmier, mais leur identification passe par un temps d'évolution nécessaire pour tous les professionnels qui seront concernés et par un temps d'appropriation et d'études prospectives en partenariat avec le ministère de la Santé et l'ensemble des observatoires s'ils sont enfin coordonnés. En guise de conclusion, pour nous, une GPEC prospective de la profession d'infirmier implique une reconnaissance des pratiques et des niveaux, la constitution d'un champ professionnel universitaire décliné en filières couvrant l'ensemble du dispositif et du cursus LMD, avec des débouchés sur le monde du travail, car rien ne sert de mettre en place des masters ou des doctorats si, quelque part, il ne débouche rien dans le monde du travail. Vous êtes dans une université, je vous invite à interroger certains étudiants à Bac plus 5 qui ont certes des masters, peut-être pour certains des doctorats, et qui sont pour autant dans l'incapacité de trouver des emplois. Donc je crois que dans le champ infirmier, il faut que nous ayons le souci constant de coordonner la mise en place de masters et de doctorats vers de l'emploi. Ça doit pouvoir exister aux différents niveaux. Le gouvernement doit créer les conditions d'une reconnaissance des formations et des diplômes en termes de salaire et de statut. D'autre part, il sera nécessaire au niveau gouvernemental, là aussi, de fournir un effort particulier d'embauche dans les services, tant publics que privés, et dans les groupements de coopération sanitaire, afin de garantir une offre de proximité en termes d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Nous approchons le premier pic des départs en retraite en 2012 et les nouveaux enjeux de santé publique. Alors, je pense que vous les connaissez tous, il y a tout ce qui tourne autour du plan cancer, de l'Alzheimer, des lois handicap. Eh bien, tous ces enjeux-là nécessitent encore la création d'emplois, particulièrement là où la pyramide des âges est déséquilibrée. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le secteur public, où plus de 50% a plus de 40 ans et où plus d'un tiers a bientôt plus de 50 ans. Enfin, la CFDT tient à insister sur la nécessité de débattre avec vous et avec l'ensemble des professionnels, des référentiels, pour éviter des aberrations et les dangers que peuvent provoquer une élaboration technocratique de leur contenu. Votre appréciation est en effet indispensable pour définir les besoins, notamment pour la création de masters, parce que ce sont vos masters de demain, pour la création et la mise en place de passerelles, de manière à permettre l'évolution d'un métier sanitaire vers un autre, et aussi pour les principaux éléments contributeurs à l'élaboration d'une culture commune. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je passe la parole à Mme.